Tamani. Voici nos informations en français.
Bonjour à tous et bienvenue à la une de ce journal. L'Algérie n'enverrait pas de troupes dans le Sahel pour combattre les groupes terroristes. C'est le ministre algérien des Affaires étrangères qui l'a annoncé ce lundi sur une radio du pays. L'ONU veut trouver une solution à la vulnérabilité croissante des casques bleus. Selon un rapport d'un groupe d'experts, le nombre de morts parmi les forces de maintien de la paix est reparti à la hausse ces cinq dernières années. Des groupes armés de la CMFPR mécontents de leur faible représentativité dans les instances de la mise en œuvre de l'accord. Ces mouvements demandent plus d'inclusivité dans l'application de l'accord. Présentation de ce journal à Setou Kanté. Le ministre algérien des Affaires étrangères a annoncé ce lundi que son pays exclut tout envoi de troupes militaires pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Cette déclaration intervient quelques jours après la visite du chef de gouvernement malien à Alger. Soumaïlou Boubé Maïga avait plaidé en faveur d'un soutien de l'Algérie à la force du G5 Sahel et l'accélération du processus de paix. Adama Amadou Aïdara.
Sur les ondes de la radio algérienne Channel 3, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que l'Algérie ne sera jamais impliquée dans des conflits militaires au-delà de sa frontière. Pourtant, Abdelkader Misael a affirmé qu'aider les pays sahéliens, notamment le Mali et la Libye, dans la lutte contre le terrorisme reste une priorité pour l'Algérie, parce qu'elle est aussi concernée par cette menace. Le ministre a toutefois indiqué qu'il y a plusieurs façons de soutenir les pays du Sahel en matière de lutte contre le terrorisme, citant que l'Algérie a beaucoup œuvré au renforcement des capacités des armées du Mali et du Niger. Selon lui, le pays a dispensé 100 millions de dollars américains au cours de la dernière décennie pour fournir une assistance logistique et humanitaire aux opérations antiterroristes dans les pays sahariens. De plus, il a également formé des troupes d'opérations spéciales au Niger, au Mali et dans d'autres pays de la région. Enfin, le diplomate algérien a déclaré que la clé pour mettre fin à la crise au Mali et en Libye est entre les mains des Libyens et des Maliens eux-mêmes. Et selon lui, l'ingérence militaire étrangère dans ces pays ne ferait que conduire à plus de chaos plutôt qu'à résoudre la crise.
Cette décision de l'Algérie n'est pas surprenante, estiment certains observateurs. Selon eux, en plus de ne pas apprécier la présence des troupes françaises dans le Sahel, l'Algérie ne veut pas devenir une cible de groupes djihadistes en intervenant dans le Sahel. Brema Elidiko est joint par Mariam Kambakeita.
L'Algérie ne veut pas en réalité voir à ses frontières une présence française. Malheureusement, par la force des choses, le Mali est devenu le maillon faible, donc a été occupé par différents groupes de l'obédience diverses. Et donc le Mali s'est réfugié auprès de la France, qui est revenu en France. Donc on a fait une coopération militaire avec la France. Du fait que bon, il y a des soldats français. Barkhane est en train de tourner entre les différentes frontières sans rendre compte à aucun état majeur africain. Cela a déjà attristé l'Algérie. Le Mali était devenu une sorte de réceptacle des groupes djihadistes algériens, notamment les GCC algériens, en fait, des GIA. Tant qu'ils étaient réfugiés au Mali, l'Algérie était en paix. L'Algérie n'a pas d'un état majeur avec les djihadistes, elle a tout le temps bombardé. Si l'Algérie aujourd'hui dit qu'elle va envoyer des soldats, elle va devenir une cible des groupes djihadistes.
Réagissez à toutes ces informations sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros 75 84 11 11 ou le 75 84 12 12. Depuis 2013, 195 casques bleus ont été tués dans les opérations de maintien de la paix, dont 56 uniquement en 2017. L'ONU veut mettre fin à ces nombreuses pertes en vie dans les rangs de ses forces en mission. Un rapport d'un groupe d'experts remis au secrétaire général de l'ONU et rendu public ce lundi explique les raisons de la vulnérabilité croissante des casques bleus. Sekou Kadigo nous en dit plus.
Le rapport indique que le nombre de morts parmi les forces de maintien de la paix est reparti à la hausse en 2013. En 5 ans, 195 casques bleus ont été tués, dont 56 pour la seule année de 2017. Le bilan le plus lourd depuis 1994 souligne le document. Toujours selon le rapport, les missions africaines sont les plus vulnérables avec en tête la mission de l'ONU au Mali, qui a perdu 91 hommes. Elle est suivie par les missions en Centrafrique avec 29 morts, au Darfour pour 26 victimes en RDC, 25 et au Soudan du Sud avec 13 casques bleus tués. Les contingents du Tchad et de Tanzanie ont subi depuis 2013 les plus lourdes pertes devant ceux du Niger, de Guinée et d'Éthiopie, selon le document. Pour le groupe d'experts, les raisons de cette vulnérabilité des forces onusiennes sont nombreuses. Il estime que les contingents sont souvent mal équipés pour remplir leur mission, et cela pour des raisons financières. Transport de troupes en pick-up alors qu'il faudrait des véhicules anti-mines, patrouille de nuit sans lunettes de vision nocturne. Ils sont aussi trop souvent défensifs alors qu'ils devraient être proactifs pour identifier les menaces et les neutraliser. Face à ce constat, le rapport formule une série de recommandations pour les opérations ainsi que pour leurs responsables. Il s'agit notamment de l'identification des contingents à problème ou des tests surprises pour vérifier la préparation des troupes.
Les groupes armés membres de la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance dénoncent leur faible représentativité dans le processus de mise en œuvre de l'accord d'Alger. Ils l'ont fait savoir hier au cours d'une conférence de presse. Ces différents mouvements déplorent la non-restitution des travaux du comité de suivi à certaines communautés du Nord, ce qui pourrait constituer une entrave à l'application de l'accord. Alassane Dité, président des 10 mouvements de la CMFPR, au micro de Ousmane Diko.
Bon, le point de presse est axé sur deux axes essentiels. D'abord, l'unité des sédentaires. Nous sommes 11 groupes armés. Aujourd'hui, nous sommes 10 réunis. Deuxième, c'est que les sédentaires sont pratiquement pas dans le système de l'accord. Je ne veux pas régionaliser, mais je peux vous dire avec certitude. Je vous donne un exemple. Au CSA, il y a 24 personnes, il n'y a que 2 sédentaires. L'équilibre n'est pas. Donc, il y a beaucoup de structures où nous ne sommes pas présents. Il faut l'inclusivité pour qu'il y ait une paix durable au Mali. L'équilibre doit se faire depuis au départ. Mais on dit mieux vaut tard que jamais, on peut toujours rattraper. Aujourd'hui, ces mêmes mouvements qui sont retrouvés. Peut-être que ça a été très mal reparti au départ, mais il y a des erreurs qu'il faut corriger au fur et à mesure, parce que l'accord a des insuffisances. Donc, il faut qu'on corrige tous les jours. Nous ne sommes pas là pour demander la place de qui que ce soit, nous ne sommes pas là pour demander la part de qui que ce soit, nous sommes là pour les communautés que nous représentons ici. Les restitutions du CSA, les communautés sédentaires ne sont pas au courant. Il faut que ça soit restitué à la base. Les gens pour lesquels on a signé l'accord, ils doivent être au courant de tout ce qui se passe.
Sur un tout autre sujet, c'est parti depuis hier pour la 3e édition du Festival Ciné-Droit Libre, la rencontre réunie des cinéastes, des journalistes, des chercheurs, mais aussi des défenseurs de droits humains. Le festival a pour thème cette année Migration loin de chez moi. Pendant 5 jours, des films documentaires et fictions réalisés sur la migration seront projetés. Des débats sur le thème sont aussi prévus. La Côte d'Ivoire décide d'augmenter sa fourniture d'électricité au Mali de 45 à 60 mégawatts. L'information a été communiquée ce lundi par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des Énergies Renouvelables, reçu ce lundi par le premier ministre malien. Cette annonce intervient alors que le pays enregistre un déficit de plus de 27 mégawatts. Imerna Kelomaïka.
Une semaine après la signature d'une convention pour l'interconnexion électrique entre le Mali et la Guinée, la Côte d'Ivoire aussi annonce l'augmentation de sa fourniture en électricité de 15 MW. Selon le ministre ivoirien du pétrole, de l'énergie, c'est une partie de la capacité du barrage hydroélectrique de Soubouré en Côte d'Ivoire qui sera mis à la disposition du Mali. Thierry Sanou.
Dès aujourd'hui, nous avons augmenté à minima de 33% par rapport à ce que l'on donnait avant. Et c'est une partie de cette capacité de Soubouré, donc justement, que l'on met à la disposition du Mali. Et nos ressources devraient permettre de pouvoir mettre en place des centrales peut-être sous-régionales, c'est à étudier.
Le ministre de l'Énergie du Mali pense que cet appui permettra au pays de faire face au déficit d'électricité de 2018. Malik Alousseini.
Très bonne nouvelle. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous livre 45 mégawatts. Et effectivement, la bonne nouvelle, c'est que cette puissance va être portée à 60 MW, extensible à 80 MW. Ceci nous permettra d'avoir une bonne gestion de la pointe 2018.
Les responsables de la Société de l'énergie du Mali se réjouissent de cette nouvelle. Ils estiment toutefois qu'elle ne suffira pas à mettre fin au délestage. Selon eux, pour faire face aux besoins en électricité, il faut que le pays construise ses propres barrages.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Écho des régions, une cinquantaine de producteurs agricoles échangent depuis hier sur les techniques d'acquisition, d'utilisation et d'entretien des tracteurs à Koutiala. Selon les organisateurs, la rencontre vise à appuyer les acteurs de développement local pour l'amélioration de la production et de la productivité agricole. Un étudiant de 20 ans est mort à Sens suite à un accident de circulation causé par un camion ben de transport de sable. Le drame s'est produit au quartier Lafiabougou. Selon les témoins, le passage du véhicule a coïncidé avec la traversée de la victime qui jouait au football avec d'autres jeunes. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À tout de suite pour le magazine.